n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
À toutes et tous, ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Caméra Subjective, le magazine de Radio G, consacré à l'actualité du cinéma. Ce soir, dans le studio, une équipe motivée derrière les micros et la console. Bonsoir Anne-Lie.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir Claire.
Bonsoir Cécile.
Ce soir au programme, pour commencer notre émission, nous partons à la rencontre du réalisateur Christophe Granger, qui a réalisé le court-métrage « Coupeur de route ». Cette interview sera suivie d'une chronique de spectateurs sur leurs premiers souvenirs de cinéma. Et pour finir, le portrait de la comédienne Sandra Hüller, qui a monté deux fois les marches sur le tapis rouge de la Croisette cette année. Je donne maintenant la parole à Véronique, qui reçoit ce soir le réalisateur Christophe Granger.
Merci beaucoup. Et donc, oh, un petit démarrage musical surprenant. Alors, petite pause. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Donc Christophe Granger, vous êtes cinéaste et vous avez réalisé votre premier court-métrage Coupeur de route. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans l'émission de Caméra Subjective sur Radio G.
Pour commencer, merci beaucoup.
Pour commencer cet échange, pourriez-vous nous raconter votre parcours? Enfin bon, celui qui vous a amené à la réalisation de films, bien sûr.
Eh ben ouais, tout à fait. Moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma, mais après le bac, j'étais pas du tout prêt à aller vers la réalisation, à écrire des histoires. Alors, j'ai suivi une voie en parallèle. J'ai fait une formation et j'ai commencé à travailler dans le côté administratif de l'audiovisuel, l'organisation de tournage. J'ai fait ça pendant des années et jusqu'à mes 34 ans à peu près. Et alors que j'avais rien écrit pendant toutes ces années, ça m'est revenu cette envie de mettre des histoires en images. Et j'ai réalisé un tout premier court-métrage autoproduit, c'est-à-dire tout seul chez moi, avec un téléphone, en filmant ma compagne qui avait jamais joué avant. Et voilà, ce film, il a pu aller dans quelques petits festivals, et puis c'était quelque chose à montrer. Notamment quand j'ai rencontré mes producteurs à Ecofilm, qui ont ensuite lu le scénario de Coupeur de route, le film dont on parle ce soir, et voilà, ensuite on est parti ensemble sur la production de ce premier vrai court-métrage avec une équipe, etc.
Du coup, vous le disiez, Coupeur de route est votre premier court-métrage, on peut dire, produit, et il a un lien en fait avec le Maine-et-Loire et Angers, puisqu'il a été découvert lors du festival Premier Plan, et lors de ce festival, vous aviez reçu le prix des bibliothécaires. Mais en fait, si on avait envie de parler de votre film, c'est qu'il est encore à découvrir puisqu'il est sur la plateforme Arte TV jusqu'en janvier 2024. Ce qui, nous incite à donner envie à nos auditeurs de venir découvrir votre film s'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir à premier plan. Et du coup, en guise d'introduction et d'entrée dans votre film, est-ce que vous pourriez nous résumer l'histoire, bon, sans la spoiler bien sûr, et nous parler de l'intention de départ de cette histoire?
Eh ben, ce film, il raconte l'histoire de Nino, qui a 20 ans et qui est un vagabond des autoroutes. Il attend qu'une chose, c'est l'été pour partir, faire la route, dormir dehors. Et en fait, il squatte les aires d'autoroute, il reste quelques jours sur l'une et il part sur la suivante. Et dans le film, on le suit au gré de ses rencontres, notamment avec Sarah qui conduit des camions et qui rencontre un soir sur une aire d'autoroute. Et l'idée du film, elle est partie vraiment du lieu, de ces aires d'autoroute ouvertes 24 heures sur 24, qu'on connaît tous, c'est nos vacances, des souvenirs d'enfance, et en même temps, c'est aussi tout l'univers du transport routier en parallèle, juste à côté, qu'on voit pas forcément, mais qui a ses propres zones dédiées, où il peut y avoir aussi pas mal de problèmes, de délinquance, de prostitution. Et ben voilà, j'avais envie de suivre un personnage dans cet univers qui vivra justement dans cet envers du décor et qui s'en servirait pour voyager de la façon qui est la sienne dans le film.
Et merci Christophe Granger. Je vous propose de faire une courte pause en écoutant un extrait sonore du film et pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'extrait, en fait, dans cet extrait, nous sommes dans les toilettes féminines de l'aire d'autoroute. C'est parti.
Moi, c'est Nino.
Et t'aimes pisser assis, Nino ?
Et toi ? T'aimes quoi ? T'aurais pas des euros sur toi ?
Si.
Voilà pour une mise en bouche. Merci Christophe de nous avoir accordé l'autorisation de passer cet extrait sonore.
Il n'y a pas de souci, merci à vous.
Et du coup, comment en fait passez-vous de cette idée d'histoire à la mise en scène d'un court-métrage à l'image et voilà. Et alors c'est vrai que c'est une très vaste question, mais qui peut permettre de balayer les étapes en fait de fabrication d'un film, du scénario. À sa construction, à sa préparation, à son tournage, jusqu'à son montage.
Ouais, bien sûr. Est-ce que après, d'abord, peut-être ce que je peux dire, ce qui m'a attiré dans cette histoire, sans forcément révéler l'histoire du film et tout ça, c'était vraiment de suivre ce personnage et d'observer la liberté de ce personnage qui peut être à la fois attirante et repoussante. Repoussante parce qu'il fait des choses qui sont éloignées de moi, mais attirante aussi parce qu'il assume complètement de suivre ses envies, ses instincts comme il veut, quand il veut, et ça a quelque chose de fascinant et qui en tout cas moi m'a questionné, et c'est vraiment ça qui m'a attiré dans l'écriture de ce film. Et donc ça commence avec un scénario que j'ai écrit tout seul dans mon coin. La première version, j'ai dû l'écrire en 3 semaines, et ensuite il faut une société de production qui est le cadre légal qui entoure tout le film du début à la fin, qui est un partenaire technique, artistique à tous les niveaux. Donc j'ai parlé de Haiku Film, qui sont mes producteurs que j'ai pu rencontrer via un autre projet qui s'est pas fait. On était restés en contact, et une fois qu'on a décidé de travailler ensemble sur celui-là, il y a eu toute la période de recherche de financement, où on candidate auprès de diverses commissions, les régions, le CNC, les chaînes de télé. Et ces commissions, elles font des retours sur les projets. Alors des fois, on réécrit le scénario en essayant parfois d'aller dans leur sens quand les retours font sens pour le film. Et c'est un processus qui s'étale sur des mois, entre les dépôts, les attentes de réponse. Et nous, finalement, on a eu l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine et ensuite le soutien de la chaîne Arte, que ça a été une super reconnaissance et ça a été très important pour le film. Et donc c'était un film d'été, on prévoyait de le tourner l'été suivant. Mais voilà, c'était 2020 avec le Covid et toutes les incertitudes des premiers confinements. Et en fait, on a dû repousser le tournage d'un an à l'été d'après. Mmh. Et finalement, on l'a tourné en septembre 2021, sur 7 jours de tournage. Et pour le montage ensuite, ça a été la même histoire, parce que post-Covid, il y avait tous les techniciens, techniciennes qui étaient pris sur les gros projets qui n'avaient pas pu se faire. Et on a pu commencer le montage qu'en janvier 2022, pour terminer le film en juin 2022. Donc ça a été un long chemin, mais voilà, on est arrivé au bout, quoi.
Ça veut dire que ce temps du montage vous a permis de prendre beaucoup, beaucoup de recul, si vous l'avez fait beaucoup plus tard que prévu, sur vos choix de montage ?
C'était pas forcément voulu, mais c'est vrai qu'il y a une longue période entre le tournage et le montage. Et pendant cette période, moi, j'ai pas du tout voulu regarder les rushs, pas du tout voir ce qu'on avait fait, et pas du tout voulu commencer à travailler dessus, quoi. J'ai vraiment attendu de pouvoir m'y confronter pour de vrai avec la personne avec qui je voulais travailler. Et ouais, ça a amené une distance. Ça avait des bons côtés et des mauvais côtés aussi, quoi. Mais je pense que c'est bien, ouais, de faire une pause comme ça après le tournage, en tout cas. Peut-être pas si longue la prochaine fois.
Ouais, je vous le souhaite. Vous nous disiez en fait quel rôle important jouaient les producteurs à vos côtés pour construire ce projet de film et jusqu'au même aux discussions artistiques. Je me demandais aussi du côté des commissions et d'Arte, en fait, est-ce qu'ils jouent aussi eux un rôle sur la réécriture du film ou sur des choix artistiques?
Bah oui, parce que quand ils s'intéressent au projet. Ben voilà, à partir du scénario de base, bien sûr, voilà, ça, ils sont intéressés, mais on discute aussi du scénario, de ce qui leur plaît, de ce qui leur plaît moins dans le film, parce qu'en fait, ils deviennent coproducteurs du projet. Voilà, ils sont moins dans le quotidien comme mes producteurs, mais ils participent vraiment au film, quoi. Et du coup, à ce stade, dans le scénario, il y avait pas mal de choses qu'on avait rajoutées pour certaines commissions, justement, comme je disais tout à l'heure, qui nous poussait à toujours expliquer plus les motivations du personnage principal, pourquoi il fait ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il en retire à la fin du film. Et Arte, Hélène Vessière, la personne qui s'occupe des courts-métrages, elle voulait supprimer tous ces passages très explicatifs. Et moi, ça m'allait parfaitement. En fait, on est revenu à quelque chose de très proche des premières versions. Et donc, j'étais complètement OK. Je disais, OK, ouais, on vire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça s'est très bien passé. Et ensuite, c'est plutôt au niveau du montage après qu'ils reviennent à nouveau, qu'il y a des échanges à nouveau plus poussés, des retours sur les différentes versions, des validations. Et encore une fois, à ce stade, ça s'est bien passé. Ils ont une expérience vraiment énorme au niveau des cours, de leur fabrication et tout ça. Et leur retour en général, c'est des choses qui aident le film. Donc voilà, moi Enfin, j'étais très content de la façon dont on a pu collaborer et des choses que j'ai pu apprendre tout au long du processus, finalement.
Mmh. Et pour revenir un peu plus à l'intérieur du film, je trouve qu'une des lignes de force de votre film, c'est vos comédiens et le choix de vos comédiens et la manière dont vous avez dû les faire travailler. Donc, il s'agit de Théo Augier et d'Aurélie Lannoy.
Ouais.
Pourriez-vous nous raconter comment vous les avez choisis et comment vous avez travaillé avec eux?
Ouais, tout à fait. Bah, j'ai pas fait de casting, en fait. J'ai pas rencontré, comme ça se fait parfois, plein d'acteurs pour leur faire passer un essai. J'ai cherché directement les profils que j'avais en tête sur Internet. J'ai vu beaucoup de cours. J'ai écumé tous les sites d'agences artistiques qui sont sur Internet, où il y a les photos, les CV des comédiens. Et c'est comme ça que j'ai vu Théo, qui joue le rôle principal. Je l'ai vu dans un court-métrage, en fait c'était même un trailer de court-métrage même, et voilà, j'ai su que c'était lui, que ça pouvait être lui tout de suite, quoi. Donc je l'ai contacté, il a lu le scénario, et voilà, on a décidé vraiment de partir ensemble, et ça a été le même fonctionnement pour Aurélie Lannoy, qui est l'autre rôle principal. Pas de casting non plus, elle fait beaucoup de théâtre, et chercher un physique un peu différent aussi, quelqu'un de grand avec une certaine carrure. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. J'ai vu aussi un cours dans lequel elle avait joué. Et voilà, je lui ai proposé le film, on en a parlé, ça lui a plu. Et en fait, on a juste fait une lecture tous les trois, avec Théo et Aurélie. Voilà, pour voir l'alchimie, entre guillemets, entre nous trois, etc. Et on est parti comme ça ensemble. Je sais pas, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai voulu fonctionner. Bon, il n'y a pas forcément de voix consacrée entre guillemets, mais pour les autres acteurs, voilà, celui qui fait le rôle du jeune routier, c'est un jeune acteur qui est en formation pour ça. Mais tous les autres rôles, tous les rôles secondaires, les figurants, on les a trouvés sur place autour du lieu de tournage qui était au sud de Bordeaux. Et on avait un super assistant de production qui est allé chercher des gens dans des cafés, des bars PMU, des garages, voilà, chercher des routiers, des gens qui pouvaient passer pour des routiers qui parlaient des langues des pays de l'Est. Donc voilà, il a trouvé des super personnages et on a pu, voilà, des gens qui avaient jamais joué et on a pu travailler avec eux et ça amène un côté aussi authentique au film et c'est, c'était vraiment une des forces qu'on a eues sur le tournage, de pouvoir profiter de ça et d'arriver à travailler avec ces gens qui n'avaient jamais fait ça avant.
C'est vrai que toute cette distribution s'harmonise extrêmement bien. Et je crois savoir que Théo Augier a récemment reçu un prix pour l'interprétation dans le film. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour montrer à quel point...
Oui, tout à fait. Il a eu un prix là il y a une ou deux semaines. C'était les prix Unifrance du court-métrage qui sont remis lors du Festival de Cannes. Ça ne fait pas partie de Cannes, mais c'est un événement en parallèle parce que Unifrance est un organisme qui s'occupe de la promotion et l'exportation du cinéma français dans le monde. Et du coup, ils remettent leur prix à cette occasion pour les courts-métrages. Et il a eu un prix pour l'interprétation masculine, effectivement, pour son rôle dans Coupeur de route. Donc, c'est une super reconnaissance. Moi, je suis super content pour lui et pour le film. Et ça a été un plaisir de travailler avec lui tout au long du tournage.
Bon, bravo à Théo. Et puis, j'espère qu'on le retrouvera prochainement dans d'autres projets de films.
Ouais, je pense qu'on va pas mal le voir, ouais.
J'avais encore une question sur le côté un peu atypique de votre film. C'est du côté du choix du cadre de l'image. Aujourd'hui, les courts-métrages ont souvent un format assez allongé, un peu 16/9, s'il y en a qui ça parle. Et vous avez choisi un format plutôt qui s'approche du carré. Pourquoi ?
C'était une décision à la fois artistique et pratique. On a pas mal discuté avec mon chef opérateur Christophe Chauvin au début pendant la préparation des influences que moi j'avais et ce format il s'est assez vite imposé de façon un peu instinctive. C'est un format presque carré, juste un peu plus large, à la fois parce que j'avais des références de films d'André Arnold par exemple, mais aussi parce qu'on savait qu'on aurait souvent un personnage à l'écran ou deux, et que ce serait le format idéal pour les cadrer. Que ça permet, c'est un format sur les visages, sur les choses comme ça, qui permet d'avoir vraiment une image, une belle image aussi, de capter vraiment les visages. Et donc il y avait tous ces aspects artistiques, mais aussi pratiques, parce que on savait qu'en court-métrage, on n'a pas non plus des moyens illimités, donc on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de place dans les cabines de camions, parce qu'on a vraiment tourné dans des vraies cabines. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour les acteurs, plus quelques membres de l'équipe, le caméraman, le preneur de son, etc. Et ça permettait aussi de réduire le champ, de ne pas avoir trop de choses à gérer dans le champ. C'est un peu toutes ces choses qui nous ont guidés. Peut-être une dernière chose aussi, c'était un moyen de... Enfin, ça, on le voit plus en voyant le film, peut-être, de retranscrire l'état de solitude du personnage aussi sur la route. Il y a que les autres personnages comme Sarah, la camionneuse, qui arrive à rentrer dans le champ et à partager des moments avec lui. Tous les autres personnages sont souvent bord cadre ou là, mais pas très longtemps. Et ça retranscrit aussi un peu sa solitude dans son périple qu'il accomplit tout au long de l'été sur la route.
Merci beaucoup Christophe Granger, nous sommes arrivés au terme de cet échange et je rappelle à tous nos auditeurs que nous pouvons voir votre court-métrage Coupeur de route puisqu'il est en ligne sur Arte TV jusqu'au 20 janvier 2024. Précipitez-vous pour aller le voir.
Merci
au revoir
beaucoup.
Christophe, merci.
Merci.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space.
society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy Andy, I hope you're not lonely without me.
Vous écoutiez Society, composé par Eddie Vedder, musique du film Into the Wild, réalisé par Sean Penn en 2008, en direction de l'émission Caméra Subjective sur Radio G 101.5. Et maintenant, nous vous proposons de remonter le temps avec une création sonore consacrée à des regards de spectateurs, dernière création sonore de ce type de la saison, et les témoignages croisés de Fabio, Chloé et Eric qui racontent leurs premiers souvenirs de cinéma.
Alors, je m'appelle Fabio Longoni.
Moi, je m'appelle Chloé.
Je m'appelle Eric. Et je crois que mon premier souvenir de cinéma, c'est quand mes parents, parce que c'était quand même un événement assez rare, nous ont emmenés avec mon frère au cinéma. Et mon père était épris d'opérette. Et je crois que le film que nous sommes allés voir, moi, je ne devais pas avoir 10 ans à l'époque. C'est un film avec Luis Mariano qui devait s'appeler Violette Impériale, je crois, un souvenir de ça.
On était avec mon grand frère et ma petite sœur, mes parents, et c'était une surprise, tu vois. C'était la soirée où on dit, demain soir, ça doit être un samedi soir, on va vous faire une surprise. Et nous, on s'attendait à un truc de ouf. Et de fait, on a été dans un fast-food et on a été voir Beethoven 2 au cinéma et c'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de malade. Parce qu'on n'allait jamais au restaurant, parce que c'était la première fois que j'allais au cinéma et que... Alors, je crois que c'était tout le truc qu'ils avaient monté avant. Tu vois, ça faisait une semaine qui nous est une espèce de teaser de ouais, alors voilà, on va venir vous chercher après l'école et puis après on vous dit rien, mais il va se passer plusieurs choses et ça va se passer en plusieurs temps, vous allez vous coucher plus tard que d'habitude et tout. Et donc on se retrouve devant le cinéma, on sortait du espèce de fast food et je savais pas que c'était ça le cinéma, moi, vu que j'y étais jamais rentrée, je savais pas que c'était un cinéma. Et voilà, et on s'est assis, mais si, mon petit frère était né, donc non, je devais être plus vieille que ça, je devais avoir donc 8 ans. Et j'avais peur qu'il ait peur. Et il a eu peur. Beethoven 2 en même temps, c'est flippant.
Roxy Rookie aussi qui faisait peur, je l'ai revu. Il fait super peur. regardé avec les gamins, j'ai fait ah ouais, cette histoire de marécage. Mais qui. Il y a cette ambiance souvent dans les dessins animés, un truc qui fait peur quand on est gamin, je réalise là, c'est qu'on les met souvent tout seul, dans des situations d'adultes où ils doivent se débrouiller tout seul. Et suivant la texture du dessin animé ou du film, là, l'ambiance, bah, c'est plus ou moins flippant, quoi. Et Rocks et Rookies, je crois que c'est très très flippant.
En fait, c'était un cinéma vraiment pérave, tu vois, de. Ouais, début des années 90, quoi.
C'était dans l'abbaye, c'était dans une salle. C'était une salle avec des tuffeaux, tu sais, des candélabres et tout ça. C'est une salle voilà, qui était dans l'abbaye. Il y avait une connotation religieuse, donc à mon avis, il ne devait pas passer tous les films. Pas qu'il y avait quand même une petite censure.
En Italie, j'ai plein de souvenirs. Au-delà du fait, c'était vraiment une des parties de ma vie avec mon frère. On allait voir mon père 3 semaines, un mois en été. Et j'ai des souvenirs de cinéma. On allait à la mer, sur la Méditerranée, c'est la Ligurie, c'est la zone de Gênes un peu. Genova, et nous c'était vers la Spezia. Il y avait un tout petit village de bord de mer, enfin une ville de bord de mer, hein, pas énorme, et il y avait le cinéma en extérieur à l'Italie. Alors je dis à l'italienne, en France aussi, hein, mais c'était, pour moi c'était lié à l'Italie, c'était le cinéma de plein air. C'était pas au milieu d'une cour, c'était vraiment entre des bâtiments. Il y a la mer pas loin, avec des petits bateaux et tout, des récifs, c'est pas les grandes plages, hein, puis c'était déjà assez crado à l'époque, hein. Mais le village était typique, quoi. Et il y avait ce grand parking, on se garait là, moi j'étais tout excité, hein. J'adorais aller au cinéma, j'adore encore. On faisait la queue avec mon père, mon frère, et il faisait nuit. Il faisait bien nuit, quoi, c'était l'été tard le soir. Il y avait la petite queue, et après on arrivait sur une sorte de gradin, et là il y avait un écran. Encastré, entre des immeubles, etc. Mais c'était le cinéma officiel, hein. Et là j'ai souvenir là, vraiment très précis de ce lieu-là, quoi. Donc c'était assez magique, quoi. Je l'ai peu vécu, ça, depuis. Cinéma en plein air. Et là, les films, alors, je ne me rappelle plus quel film on a vu. Je sais juste qu'on a vu des Bud Spencer et des Terence Hill, qui sont italiens. Voilà. Il y a ce lien-là. Et mon père, il n'était pas un grand cinéphile, hein, mon père, hein, au sens RSA et compagnie, mais voilà, il aimait bien. Bud Spencer, il aimait bien. Il aimait bien. Et puis, moi, j'ai des super souvenirs. Je me souviens des sons des claques et des baffes, quoi.
Où tout le monde arrive, c'est un brouhaha, les gens parlent, les gens fument, les gens sortent, les amoureux s'embrassent. Voilà, c'est un rendez-vous du village, de la ville, où tout le monde vient, et puis après, hop, c'est fini, et il y a le film, hein, où tout le monde se tait et on regarde le film. Hein.
Donc voilà, les souvenirs étranges que j'ai, c'est drôle, hein, on va voir des films où il y a des scénarios, il y a des situations drôles et tout, et les deux trois traces, c'est ça, c'est Bud Spencer, Terence Hill et Dario Argento, quoi, avec des traces de sang, et le son des baffes, Bud Spencer et Terence Hill.
Et en fait, ils avaient dit ce jour-là qu'on ferait ça une fois par an, tous les ans. En sortant du cinéma, ils nous ont dit ça. On dit, voilà, bah, à partir de maintenant, une fois par an, ben, on ira manger quelque part et puis on ira au cinéma. Oh, et nous, on a l'impression que ça y est, notre vie, elle a muté, tu vois. On est passé dans une autre dimension où, genre, je sais pas, on fait des trucs de fou, quoi. Et en fait, l'année d'après, ils nous emmènent manger au même truc. On va au cinéma et là, mais ils se plantent totalement dans le choix du film. Et ils nous emmènent voir. Bah, c'était la Cité des Enfants Perdus. Le titre et tout, tu vois, ils captent pas trop, ils vont jamais au cinéma, mes parents. Voilà, la Cité des Enfants Perdus, bon, ça doit être un truc pour les enfants, quoi. Putain, on a flippé notre race pendant toute la séance. Genre, moi, je devais avoir. Antoine, il avait 3 ou 4 ans. Ma petite sœur, elle en avait donc. Ouais, 7, puis moi, 9, un truc comme ça, quoi. Et là, je crois qu'on est parti au milieu de la séance. Ou je crois que mes parents nous ont dit plusieurs fois, vous voulez qu'on y aille ou comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on n'a jamais pu retourner au cinéma avec mes parents. Ça les a complètement calmés. Ils se sont dit, non, non, mais en fait, on n'y connaît rien, faut pas qu'on fasse ça. Et voilà. Et après, j'ai fait des études de filmologie. Juste après. Non, mais pas juste après, parce que je suis pas passée de 8 ans à 18 ans, mais... Et je veux dire, j'ai pas été beaucoup au cinéma entre les deux. Donc voilà, mon premier souvenir de cinéma, c'est Beethoven 2, et c'était un truc de fou. C'était l'événement de mon enfance, quoi. J'ai cru que je me souviendrais de ce jour-là toute ma vie. De fait, je m'en souviens, donc...
Merci Claire d'avoir partagé avec nous ces souvenirs de premiers émois de cinéma. Nous allons maintenant, sans transition, donner la parole à Cécile qui est dans les Starting Blocks. C'est parti.
Comment ne pas évoquer l'actrice allemande Sandra Hüller au casting de deux longs métrages du 76e Festival de Cannes. Dans The Zone of Interest de Jonathan Glazer, une adaptation libre de La Zone d'intérêt de Martin Amis, elle incarne Hedwig Hoess, l'épouse du commandant d'Auschwitz. Et dans Anatomie d'une chute de Justine Trier, elle joue une écrivaine accusée du meurtre de son compagnon. De ces deux rôles à l'opposé, les critiques sont unanimes. Sandra Hüller est éblouissante de justesse. Son talent est constant. L'actrice aurait préféré ne pas jouer un personnage de l'Allemagne nazie dans un film. Elle a pourtant accepté ce rôle dans The Zone of Interest pour le réalisateur. Son personnage glaçant amène à réfléchir sur la banalité de l'horreur et la capacité à ignorer le pire. Elle raconte avoir passé un moment extraordinaire de tournage pendant les 4 semaines. Mais elle reconnaît avoir été soulagée de ne plus être avec cette femme. Elle explique que le personnage n'a jamais été présent dans sa tête et qu'elle a refusé de créer toute connexion avec lui. Pour le film de Justine Trier, Sandra Hüller a travaillé pendant 3 mois le français. Elle ne maîtrisait pas la langue française. Tourner dans une langue qui n'était pas la sienne a eu un côté libérateur. Cela lui a enlevé cette obsession de la précision en allemand. La réalisatrice française lui a effectivement écrit un rôle sur mesure. Une mère de famille ambiguë sur le banc des accusés après la chute mortelle de son époux. C'est la deuxième fois que Sandra Hüller tourne avec Justine Trier. Les deux femmes se sont rencontrées à la Berlinale en 2012. Et pendant le tournage de Sibyl, sorti en 2019, où elle a un rôle secondaire, la réalisatrice lui annonce que pour son prochain film, elle aurait un personnage plus important à lui proposer. Rien de plus. Et puis un jour, Sandra a reçu un petit mail et un mot « J'espère que tu vas aimer ». Extrait d'Anatomie d'une chute de Justine Trier.
I'm sorry to interrupt, I'm sorry, but I don't know, you come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos, and everybody is lost, no? And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them. But if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel. But would those things be true?
Née le 30 avril 1978 en Allemagne de l'Est, Sandra Hüller a grandi à la campagne, dans le Land de Thuringe, au centre du pays en RDA. Ses parents, éducateurs, avaient fait le choix de se détourner au maximum des biens de consommation. Chez eux, il n'y avait ni voiture, ni téléphone, et dans le village, ni théâtre, ni cinéma. Elle débute pourtant le théâtre à l'adolescence. À 14 ans, la lycéenne prend goût au théâtre en découvrant que ses peurs disparaissent dès qu'elle est sur scène. Elle intègre à 17 ans l'école d'art dramatique de Berlin. Elle travaille ensuite pour différentes troupes théâtrales régionales. En 2006, la comédienne incarne une étudiante épileptique au sein d'une communauté religieuse qui la croit possédée dans Requiem de Hans Christian Schmidt. Rôle pour lequel elle se voit décerner l'ours d'argent de la meilleure actrice au 56e Festival de Berlin. Puis elle joue la cousine d'un poète suicidaire dans Amour fou de Jessica Hausner en 2014. En 2016, les festivaliers cannois la découvrent en consultante financière psychorigide, sortie de sa zone de confort par un père farceur dans Tony Erdmann, réalisé par Maren Hade. Le film a reçu le Grand Prix 2016 de la Fipreski. C'est la révélation, mais Sandra Hüller ne reçoit pas de prix d'interprétation. Bande-annonce de Tony Erdmann.
Well, I probably had a most horrible weekend of my entire life, actually. My father visited me spontaneously without anyone to be careful.
I offer the ladies a glass of champagne.
Oh!
I'm Tony. Tony Erdmann.
Also, du kannst jetzt schon sagen, dass du mein Vater bist, aber...
Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemanden als Ersatztochter engagiert.
Das ist ja eine moderne Lösung.
Wie lange willst du eigentlich bleiben?
I have to arrest you.
So, und jetzt mach's bitte auf. I'm sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. We have to solve this problem.
Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst, auch. Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort.
Wie soll man denn Momente festhalten? Ja, da muss man das noch machen und dies und dann und während dem. Jetzt geht das Leben einfach vorbei.
L'actrice allemande Sandra Hüller, révélée donc par Tony Erdmann et qui était au cœur de la Palme et du Grand Prix du jury 2023, n'a pourtant pas reçu d'interprétation à Cannes encore cette fois, ce qui n'enlève rien à son talent. Elle s'impose comme l'une des actrices européennes les plus audacieuses. Par ses rôles polyvalents, elle capte l'attention des spectateurs et les entraîne dans les méandres de ses personnages. La sortie d'Anatomie d'une chute de Justine Triet est prévue en salle le 23 août 2023 et celle de The Zone of Interest de Jonathan Glazer n'est pas encore déterminée.
Merci beaucoup Cécile pour ce portrait qui nous donne envie de plonger dans tous ces films. On a un peu de temps et en clin d'œil, voilà, peut-être un blind test de bande originale. On va voir comment vous vous en sortez. En tout cas, c'est un clin d'œil au souvenir de cinéma de Chloé. Vous allez faire le lien. Peut-être reconnu, j'en suis sûre même, ce titre issu de la bande originale de Beethoven, le film dont nous parlait Chloé. Et le titre, c'est Wall Over Beethoven, pour vous réveiller avant cette soirée qui continue. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Caméra Subjective, l'émission consacrée au cinéma sur Radio G. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de l'émission, à la page de l'émission. Donc c'est www.radio-g.fr. Nous, on se retrouve dans 2 semaines et ce sera la dernière émission de l'année. Voilà, notez-le dans votre agenda. Bonne soirée et bon film.
If you fall below the ground, if you fall where things get found, tell me how it feels. Tell me how it's like to be going round and behind the curtains.